Et bonjour à tous. L'arrivée des vaccins utilisant la technique de l'ARN messager témoigne d'une formidable évolution des biotechnologies, mais elle ne doit pas masquer une autre découverte révolutionnaire qu'on appelle l'édition de génome. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Jacques.
Vous aviez enquêté il y a 3 ans sur cette technologie qui permettra peut-être de guérir des maladies génétiques, mais qui pourrait aussi devenir une arme redoutable. On va donc réécouter votre enquête parce que ses conclusions, on le verra, sont terriblement d'actualité. Et puis nous recevrons Yann Philippin, bonjour également.
Bonjour.
Dans Mediapart cette semaine, vous avez publié les Rafale Papers, une série d'articles dans lesquels vous affirmez que la justice a enterré une possible affaire de corruption dans le cadre de la vente d'avions de chasse français au gouvernement indien.
France Inter, secret d'info, Jacques Monin.
Pour avoir transformé un mécanisme naturel immunitaire en technologie performante de modification du génome, ce qui ouvre de grandes perspectives pour la médecine.
Le prix de l'innovation est décerné à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna.
Voilà, ça c'était l'actrice Cameron Diaz qui remet en 2015 un prix à l'américaine Jennifer Doudna et à la française Emmanuelle Charpentier, deux chercheuses qui viennent de faire une découverte qui va, on va le voir, révolutionner le monde. Quelques années plus tard d'ailleurs, en octobre 2020, c'est très récent, elles obtiennent le prix Nobel de chimie. Alors cette découverte, elle porte un nom assez barbare, CRISPR-Cas9, 9 pour 9 en français, le chiffre 9. On appelle aussi ça l'édition de génome. Alors expliquez-nous, Sylvain Tronchet, CRISPR, qu'est-ce que c'est exactement ?
Il y a une image très simple qu'on utilise souvent, ce sont des ciseaux à découper l'ADN. Ils permettent de venir bricoler dans notre patrimoine génétique avec une incroyable précision jamais vue jusque-là.
Mais qu'est-ce que ça change ? Parce que les manipulations génétiques, c'est pas vraiment nouveau. Hein.
Oui, mais ce qui était long, fastidieux, aléatoire, très cher, est devenu soudainement simple, incroyablement précis, très bon marché. Avec CRISPR, on peut viser une séquence de l'ADN de n'importe quel organisme vivant et choisir, couper un gène dont on soupçonne qu'il soit responsable d'une maladie par exemple, le remplacer ou modifier ses effets. C'est le couteau suisse des généticiens.
Oui, donc si je vous entends bien, on pourrait guérir des maladies incurables.
Et on pense tout de suite aux maladies génétiques comme la mucoviscidose ou les myopathies. On a d'ailleurs déjà obtenu des résultats sur la myopathie de Duchenne chez les souris, mais on a aussi beaucoup d'espoir sur certains cancers.
On pourrait donc guérir des maladies, mais ça ouvre, Sylvain, en fait, beaucoup d'autres perspectives.
On n'imagine même pas les effets de cet outil sur l'ensemble du vivant. Ces nouvelles techniques vont tout simplement changer le monde tel que nous le connaissons. Pour André Choulika, c'est le créateur de Cellectis, l'une des entreprises françaises les plus avancées en la matière.
C'est un truc complètement fou. C'est une révolution qui va secouer la planète dans une profondeur dont on n'a même pas idée. Toute l'évolution de l'homme jusqu'à présent, essentiellement par sélection clonale ou les mariages entre gens, etc., fait que on est arrivé où là on en est. Aujourd'hui, il y a en fait un tournant énorme qui est en train de se passer grâce à ces technologies-là. Les gens vont pouvoir designer des génomes, créer des espèces.
Créer des espèces, c'est-à-dire ?
Un exemple, avec CRISPR, un généticien américain renommé affirme qu'il pourra, dans quelques années, faire revivre un mammouth laineux, une espèce qui a disparu il y a 4000 ans.
Un mammouth laineux, comment il compte s'y prendre ?
Eh bien, il compte récupérer de l'ADN de mammouth congelé, il y en a en Sibérie, hein, et introduire cet ADN dans celui d'un éléphant d'Asie grâce à CRISPR-Cas9.
Pour recréer un mammouth, donc, c'est complètement dingue, hein, votre truc. On le fait déjà, ce genre de choses ?
Non, pas encore. Hein, mais on a déjà fabriqué, entre guillemets, des chiens bodybuildés. On a identifié le gène qui conditionne la masse musculaire chez le chien. Et du coup, les Chinois ont créé des beagles 2 fois plus costauds que la moyenne. Ils ont aussi créé des mini-cochons. On a même créé des vaches laitières sans cornes, en leur introduisant le gène qui fait que certaines espèces n'en ont pas.
Bon, mais dites-moi, si on peut transformer ainsi, parce que c'est ça, hein, des animaux, est-ce qu'on ne peut pas aussi le faire sur l'homme ?
Eh bien, effectivement, on peut tout imaginer, et c'est ce que disait récemment, lors d'une conférence, Jennifer Doudna, la co-découvreuse de CRISPR.
Imagine that we could try to
Imaginez que nous puissions modifier des êtres humains qui auraient des caractéristiques améliorées, des os plus solides, moins sujets aux maladies cardiovasculaires, ou des caractéristiques plus valorisantes en changeant la couleur de leurs yeux ou en les rendant plus grands. À l'heure actuelle, l'état des connaissances ne permet pas de savoir quels gènes agissent sur ces caractéristiques. Mais il est important de savoir que la technologie CRISPR nous offre un outil qui nous permettra de réaliser ce genre de mutation dès que ces connaissances seront à notre portée.
Oui, les possibilités sont donc immenses, hein, on l'entend, et du coup, les enjeux financiers sont aussi.
Un expert m'a dit, hein, cette course-là, c'est la nouvelle conquête de la Lune. Et ce n'est pas qu'une image. Toute la question maintenant, c'est de savoir qui aura la propriété des brevets de CRISPR. Parce que si un laboratoire de recherche met au point un traitement grâce à CRISPR, celui qui les détiendra pourra venir lui demander des royalties.
Oui, donc des millions de dollars, si ce n'est des milliards d'ailleurs. Et ce qu'on observe, Sylvain, c'est qu'on se dispute du coup âprement la paternité de CRISPR.
Oui, peu de temps après leur article dans Nature en 2012, les deux découvreuses de CRISPR, Jennifer Doudna et la Française Emmanuelle Charpentier, ont déposé une demande de brevet. Mais un autre chercheur américain, Feng Zheng, les a doublés en déposant une demande en procédure accélérée. Du coup, il y a un procès en cours et cela pourrait prendre des années pour savoir qui est le propriétaire de cette technologie.
Oui, sauf que pendant qu'on se livre cette guerre juridique pour savoir donc qui aura la paternité de CRISPR, eh bien en coulisses se livre aussi une autre guerre, cette fois-ci pour être le premier à proposer des traitements.
Et des sommes astronomiques sont déjà investies. Écoutez ce qu'en dit Cécile Chevret, une journaliste spécialisée dans les sociétés qui travaillent sur les biotechnologies, les biotech comme on dit.
C'est des millions de dollars qui sont mis sur la table, sur les levées de fonds, qui se font par tour de table. Quand une biotech démarre, elle va avoir un premier cercle d'investisseurs qui mettent des millions sur la table. Et puis ensuite, il y a souvent plusieurs tours de table, deux, trois, avant d'envisager une véritable introduction en bourse. Par exemple, Editas, qui est une des sociétés, une des biotech concernées, avait déjà récolté plusieurs centaines de millions de dollars avant même de rentrer sur le marché boursier en tant que tel. Et au moment de l'introduction en bourse, ils ont levé à peu près 95 millions de dollars en un jour. C'est énorme.
Oui, donc la course au brevet est bien lancée et elle est d'autant plus acharnée, Sylvain, que CRISPR ne concerne pas que des applications thérapeutiques.
Non, il y a aussi les plantes et du coup, il n'y a pas que les laboratoires pharmaceutiques qui s'intéressent à CRISPR, m'a expliqué Cécile Chevret.
Monsanto a obtenu un accord de licence du Broad Institute, qui est un des détenteurs potentiels des brevets CRISPR, pour utiliser la technologie CRISPR sur le végétal. Et ça aussi, le marché des semences, le marché de l'agriculture, c'est un marché énorme. Donc peut-être même en potentiellement plus, qui va rapporter beaucoup plus d'argent à plus court terme. Donc là, je pense aussi qu'il y a cette partie-là explique l'intérêt des investisseurs pour la technologie.
Donc on investit aussi dans ce marché, mais ces plantes modifiées par CRISPR, ces plantes donc apparemment si convoitées, elles sont déjà au point ?
Absolument. Aux États-Unis, deux produits sont tout proches d'être commercialisés. C'est ce que m'a raconté Agnès Ricroc, professeure à AgroParisTech.
Il y a au moins deux plantes qui sont sur le marché, qui sont autorisées. Hein. On a un champignon qui ne brunit pas. Dès que vous coupez votre champignon, voilà, il va noircir. Tout le monde a vu ce phénomène-là. On a compris comment ça fonctionnait et on a modifié le gène en question. Et puis, il y a une autre création chez le maïs, dit waxy, c'est-à-dire qu'en fait, son amidon, il est totalement constitué d'amylopectine. C'est un sucre lent. Et c'est recherché dans l'agroalimentaire.
Donc, si je comprends bien, il existe déjà deux plantes modifiées par CRISPR aux États-Unis. Mais c'est pas ce qu'on appelle tout simplement un OGM, ça ?
Eh bien, oui et non. Et c'est tout le débat qui fait rage actuellement. Pour certains, une plante modifiée avec CRISPR ne serait pas un OGM au sens où la réglementation l'entend. Écoutez les explications d'André Choulika, qu'on entendait tout à l'heure, hein, le patron de Cellectis, cette biotech française qui a une filiale aux États-Unis qui s'occupe précisément de ces plantes d'un genre nouveau.
L'OGM, tel qu'il est défini dans les lois aujourd'hui, c'est une plante transgénique où il y a effectivement, par exemple, un morceau d'ADN bactérien intégré dans un maïs et les gens n'en veulent pas. Ok, je peux comprendre. Maintenant, une plante issue d'édition de génome n'est pas transgénique. Il n'y a pas d'ADN étranger à porter dedans. C'est simplement une mutation naturelle qui a été rentrée de façon précise à l'intérieur.
Ouais, naturelle, elle est vraiment naturelle cette mutation.
Si l'on considère qu'il y a une intervention humaine pour enlever un gène, non, ça n'est pas naturel. Mais le fait qu'on n'ajoute pas d'ADN étranger exclut ces plantes de la classification OGM. C'est du moins ce qu'on pense aux États-Unis et on le pense d'autant plus qu'une plante classée OGM est beaucoup plus chère à produire, donc moins rentable.
Oui, c'est pour ça que l'administration américaine a fait pression sur l'Union européenne, justement pour qu'elle n'accorde pas de statut particulier à ces nouvelles plantes.
Oui, on assiste à un intense lobbying, comme l'a révélé Franziska Achterberg de Greenpeace, qui a enquêté sur le sujet.
On a appris que, justement, la Commission allait classifier des produits d'édition de génome comme OGM. L'État américain a pesé sur cette décision de la Commission européenne. Il y a eu des réunions, il y a eu des échanges de lettres, beaucoup de contacts entre les autorités européennes et américaines sur ce sujet-là.
Oui, on va préciser, Sylvain, qu'après consultation de la Cour de justice de l'Union européenne, eh bien, la Commission a finalement classé ces plantes comme étant des OGM, sauf que le lobby, lui, pro-OGM, fait toujours pression, il veut toujours obtenir leur déclassement en expliquant qu'à ses yeux, ce ne sont pas des OGM.
Oui, vous vous doutez bien que ce raisonnement fait hurler les associations environnementales, qui ont d'ailleurs claqué la porte du Haut Conseil des biotechnologies en France, au Conseil qui avait publié un rapport très favorable à l'autorisation de ces plantes. Je suis allé voir Yves Berthaud, il est directeur de recherche à l'INRA. Il fait partie des démissionnaires et pour lui, ces plantes sont bien des OGM.
OGM, il faut revenir à la définition de la directive européenne qui indique que c'est tout ce qui a trait en fait à une modification qui n'existe pas naturellement et qui est donc le fait de l'homme. Donc ce sont des OGM parce que c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Il y a de nombreuses modifications inattendues, non prévues, et qu'il faut les étudier.
Secret d'info sur France Inter.
Bon, alors on a vu que CRISPR permet des choses incroyables, hein, qui vont de la guérison de certaines maladies génétiques à la recréation d'espèces. On a vu qu'il y avait une course au brevet avec des millions ou des milliards à la clé et un débat sur l'apparition de nouveaux types d'OGM. Alors on va voir maintenant que cette nouvelle technologie, eh bien, elle ouvre aussi des perspectives beaucoup plus inquiétantes parce que à jouer avec le vivant, Sylvain Tronchet, eh bien, on joue aussi avec le feu.
Oui, alors pour bien comprendre, je vais partir d'un exemple d'utilisation positive de CRISPR qui pourrait permettre d'en finir avec le paludisme, qui fait encore plus de 400 000 morts par an dans le monde. Cette maladie est transmise par un moustique, l'anophèle. Or, on s'est aperçu que certains anophèles ne transmettent pas le paludisme. On a donc cherché pourquoi à Strasbourg, dans le laboratoire d'Éric Marois de l'INSERM.
On a commencé donc à regarder les différents gènes qui pouvaient être impliqués. Et depuis 2012, on sait enfin, à l'aide du système CRISPR-Cas9, pour la première fois, on est capable de dire « Ah, voilà un gène qui pourrait bien être impliqué, on va l'enlever, donc on peut mutagéniser à l'aide du système CRISPR-Cas9 le gène cible. »
Et donc, on a commencé à produire en laboratoire des moustiques résistants au paludisme. L'idée à terme, ce serait d'introduire ces moustiques modifiés dans la nature pour qu'ils se reproduisent et qu'en quelques générations, tous les anophèles deviennent résistants. Ce serait la fin du paludisme, mais ça veut dire aussi qu'on a transformé l'espèce.
Parce que la modification génétique, elle se transmet à la descendance ?
Chez certains animaux, oui, on sait déjà le faire.
Ah, chez certains animaux et chez l'homme, donc ?
Eh bien, cela fait partie des choses qui pourraient devenir possibles, en théorie. Provoquer des mutations génétiques que l'on pourrait transmettre à nos enfants, qui eux-mêmes les transmettraient. Et cela pose un vrai problème pour le professeur Alain Fischer de l'Institut des maladies génétiques Imagine.
Ça pose des questions éthiques majeures. Est-ce que nous avons le droit, nous, de donc modifier le génome d'individus qui naîtront dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans? Est-ce qu'on, sans le savoir, est-ce qu'on ne prend pas comme un risque de modifier le patrimoine génétique germinal, donc qui est transmis à la descendance, autrement dit, d'une certaine façon, touché au patrimoine génétique de l'homme? Donc je pense que ça pose un problème éthique absolument fondamental, pour moi rédhibitoire. À titre personnel, je suis absolument défavorable.
Il y est défavorable, d'accord, mais qu'est-ce qui empêche de le faire quand même, Sylvain ?
Eh bien, d'abord une difficulté technique. Pour qu'une mutation génétique soit transmissible, il faut qu'elle soit faite au stade de l'embryon, sinon elle ne se transmet pas.
Oui, mais travailler ou faire de la recherche sur des embryons, c'est interdit, ça.
En France, oui, on a signé une convention qui interdit ce genre d'expérience. Mais la Chine, par exemple, elle ne l'a pas ratifiée. Et d'ailleurs, deux équipes chinoises ont déjà utilisé CRISPR sur des embryons.
Ça ne choque personne, ça ?
Si, l'annonce a indigné pas mal de monde, mais précisons que ces embryons étaient non viables. À chaque fois, il n'était donc pas question de produire des bébés OGM. En tout cas, Il y a là un vrai débat, comme l'explique Catherine Bourguin, généticienne et présidente de l'association Sciences Citoyennes.
Il y a beaucoup de scientifiques qui disent « D'accord, on ne va pas modifier l'humain pour faire des humains modifiés, mais laissez-nous le droit de faire de la recherche sur l'embryon en utilisant CRISPR, parce que ça nous permettra de comprendre des choses sur le développement de l'embryon, d'améliorer par exemple la fécondation in vitro, etc. Mais là, il y a un vrai enjeu hein, qui est peut-on, doit-on autoriser la recherche, quelle que soit la finalité, sur l'embryon ? Moi, personnellement, je suis très mal à l'aise avec cette idée parce que il me semble que c'est commencé... à rentrer dans une mécanique qu'on a beaucoup de mal à contrôler une fois qu'elle est lancée.
Ouais, du mal à contrôler, sous-entendu, transformer le vivant, en l'occurrence l'homme, hein, c'est de ça qu'on parle, sans en mesurer les conséquences. Et elle n'est pas la seule d'ailleurs à s'inquiéter des dérives qui pourraient se produire avec CRISPR.
Non, et même la co-découvreuse de CRISPR, Jennifer Doudna, se demande si on ne va pas un peu trop vite. Et ce qu'il a alerté, ce sont les recherches d'un étudiant, un doctorant aux États-Unis. Il a modifié un virus... Il l'a fait respirer à des souris et cela leur a provoqué un cancer du poumon. Quand elle en a eu connaissance, Jennifer Doudna a été littéralement effrayée parce que une toute petite erreur de conception aurait pu rendre ce virus nocif pour l'homme. Du coup, Jennifer Doudna tente maintenant de freiner les ardeurs de ses collègues.
Il y a de nombreuses questions éthiques que nous devons considérer avec attention. C'est pourquoi, avec mes collègues, nous appelons à une pause globale de toutes les utilisations de la technologie CRISPR sur les embryons humains, le temps que nous puissions en mesurer toutes les implications.
Oui, il faut prendre le temps de la réflexion, hein, nous dit en clair cette chercheuse. Sauf qu'on est peut-être déjà allé trop vite si loin, parce que des apprentis sorciers... utilise déjà CRISPR hors des laboratoires.
Et on va voir que les menaces sont considérables. Mais avant cela, intéressons-nous aux bricoleurs de génomes les plus sympathiques. Et tout d'abord, écoutons cette publicité que l'on peut trouver sur Internet.
We are offering two different CRISPR experimental kits. So now the question is, if you had access to cutting-edge synthetic biology tools, what would you create?
C'est un spot de pub hein, qui présente donc des kits CRISPR vendus $150 par correspondance et qui dit à la fin « Si vous aviez accès à un outil de pointe de biologie synthétique, qu'allez-vous créer ?»
Je sais pas, un petit Frankenstein. Bon, mais précisément, qu'est-ce qu'il y a dans ces kits, Sylvain ?
Rien de bien méchant. Hein. Vous avez de quoi modifier une bactérie et la rendre résistante à un antibiotique ou modifier la couleur d'une levure.
Oui, on comprend que ce genre de kit en vente sur Internet est plutôt inoffensif. Mais il y a plus préoccupant, Sylvain. Certains font déjà de la manipulation génétique dans des garages, par exemple.
Alors, en France, c'est interdit. Hein. Il faut des autorisations spéciales. Mais aux États-Unis, effectivement, c'est le cas. Il y a de plus en plus de laboratoires participatifs où des gens comme vous et moi, viennent s'essayer au génie génétique parce que CRISPR est relativement simple à utiliser. Avec un peu de matériel et un peu de formation, pas besoin d'être docteur en biologie.
Mais c'est pas un peu léger, ça, de laisser un tel outil à la disposition de n'importe qui ?
Alors, les biohackers, hein, comme on les appelle, répondent qu'ils ont des codes éthiques. Pas de travail sur l'homme, pas d'expérience sur des agents pathogènes. Mais comment être sûr que tout le monde respecte ces codes ? Et c'est bien ce qui inquiète les services de sécurité. Le premier a tiré le signal d'alarme, il y a un an, a été un officiel américain. Et pas n'importe lequel, c'est ce que m'a raconté Olivier Lepic, chercheur associé à la Fondation pour la Recherche Stratégique.
James Clapper, qui était le directeur de l'ensemble des services de renseignement américains, qui donc traditionnellement au mois de février publie un rapport sur l'état de la menace contre les États-Unis, eh bien a annoncé que l'édition de gènes devait figurer parmi les menaces d'armes de destruction massive pour les États-Unis. Et donc il y a eu effectivement un petit choc, mais évidemment avec la généralisation de ces techniques d'édition de gènes, je pense qu'on va vers des temps où ce débat sera encore plus aigu.
Attendez, j'ai bien entendu là Sylvain, Olivier Lepic, il parle bien d'une possible arme de destruction massive, c'est pas un peu exagéré ça hein ?
Mais vous savez, on est déjà capable d'éradiquer une espèce. Vous vous souvenez le moustique dont je vous parlais tout à l'heure ? Eh bien, des Britanniques envisagent de leur introduire un gène de stérilité et donc, à terme, faire disparaître l'espèce de la surface de la Terre. Et c'est pour ça que James Clapper classifie CRISPR au même niveau que le programme nucléaire nord-coréen. Les conseillers scientifiques de Barack Obama en ont d'ailleurs remis une couche quelques semaines plus tard dans une lettre où ils précisent les scénarios qu'ils redoutent. Benoît Colomba nous en lit quelques extraits.
Un exemple serait d'utiliser la technologie CRISPR pour créer des virus qui pourraient couper, modifier, éteindre ou activer un gène et de ce fait affecter une fonction cellulaire importante. Il est possible qu'une attaque bien exécutée et planifiée reste invisible pendant des jours ou des semaines. La recherche et le développement de traitements contre un agent infectieux spécifique nécessitent actuellement des années, souvent plus de 10 ans. Étant donné que les progrès des biotechnologies augmentent les risques de mauvais usage, il est important de pouvoir mettre en place des contre-mesures médicales beaucoup plus rapides.
Oui, plutôt inquiétant, ces propos tenus par ces conseillers américains. Et en France, on pense la même chose ?
Oui, le secrétariat général à la Défense nationale a créé, juste après les attentats de Paris et Saint-Denis, un conseil national consultatif pour la biosécurité, constitué d'experts. Et l'un d'entre eux m'a confirmé que CRISPR fait partie de leurs préoccupations.
Ah oui, donc là aussi, on croit dans un possible scénario catastrophe. CRISPR pourrait être utilisé par des bioterroristes.
Ce n'est pas pour demain, hein, mais à l'allure où vont les choses, il faut forcément prendre en compte ce risque. D'autant qu'il y a de plus en plus de personnes formées à ces techniques. Aujourd'hui, probablement plus de 3000 laboratoires dans le monde utilisent CRISPR. Donc, des milliers d'étudiants, de doctorants, pas forcément tous animés de bonnes intentions. Et c'est pourquoi la DGSI s'y intéresse de près, comme me l'a raconté Olivier Lepic.
Les services de renseignement surveillent discrètement les étudiants, les doctorants qui seraient susceptibles de développer des compétences qui pourraient être utilisées dans le cadre d'une dérive terroriste. Et je pense qu'on va aller vers un renforcement de ce type de surveillance parce que, évidemment, aujourd'hui, avec les techniques d'édition de gènes, là où il fallait des équipes extrêmement complexes de plusieurs dizaines de scientifiques, aujourd'hui, eh bien, ces outils permettent de faciliter l'accès à un certain nombre de travaux sans des équipes pléthoriques, sans des ressources financières énormes. Et c'est là que se pose le problème de ce type de technologie. Leur détournement peut être envisagé de manière beaucoup plus évidente que ce qui pouvait exister il y a simplement une dizaine d'années.
Et pour confirmer ces propos, hein, un directeur de recherche m'a raconté qu'un jour, on lui avait refusé d'employer un doctorant. On ne lui a pas expliqué pourquoi, mais il est clair qu'on fait désormais très attention au profil de ceux qui peuvent avoir accès à ces techniques.
Oui, d'autant plus qu'il n'y a pas que les virus qui peuvent déstabiliser un pays, on étudie aussi d'autres scénarios.
Oui, un chercheur avec qui j'en ai parlé m'a donné un exemple. Imaginez que quelqu'un conçoive une pomme de terre toxique. Et on a vu hein, qu'on pouvait déjà modifier des végétaux. Vous introduisez dans le circuit de distribution quelques exemplaires de cette pomme de terre, vous avez quelques victimes, et en quelques semaines, le marché de la pomme de terre s'effondre. Voilà le genre d'hypothèse qui est pris très au sérieux par les services de sécurité.
Ouais, rien de très réjouissant. Et on n'a pas encore tout dit, Sylvain, parce qu'il existe encore un dernier risque, et pas des moindres.
Eh bien oui, à beaucoup plus long terme, hein, celui de l'avènement d'une société à deux vitesses, où, un peu comme dans le film « Bienvenue à Gattaca », les riches auraient accès à la science et pourraient faire partie d'une élite génétiquement parfaite, tandis que les pauvres seraient vulnérables aux maladies. Les classes sociales seraient aussi des classes génétiques, en quelque sorte, comme l'envisageait ce film il y a 20 ans.
Jérôme, j'ai demandé votre séquençage, j'ai lu votre profil. Je suis désolée.
Voilà, ça semble encore être de la science-fiction, hein, c'est vrai, mais la technologie qui pourrait le permettre, elle, est déjà là.
Oui, comme dans toute nouvelle technologie, il y a le meilleur et le pire, ce qui nous rappelle d'ailleurs que c'est nous, in fine, qui décidons de l'usage qu'on peut en faire. Tiens, on pourrait proposer ça pour le bac cet été. Merci en tout cas Sylvain Tronchet. Alors, je rappelle que cette enquête avait initialement été réalisée en janvier 2017, mais on voit qu'elle est plus que jamais d'actualité. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez la réécouter, vous pouvez la lire sur franceinter.fr, sur l'appli France Inter ou encore sur la page Facebook de la cellule Investigation de Radio France. Mais surtout, en attendant, restez avec nous. La justice française a-t-elle enterré une possible affaire de corruption sur fond de raison d'État ? On en parle dans quelques instants.
Too far in it, too far gone. She knows what's in it, she knows what's wrong. She just can't quit it, her heart's so numb. Hers to live it, but worse to run. Waits for the night time, there's no fun. Got a call from my brother, said he's concerned. You lied about your work and I haven't seen you in months. There's no light in your eyes and she won't open them. The hardest thing, you are not addicted to me. but you're not mine to tend to. You don't see what I do. I try to defend you. It's hard not to offend you, but you're not mine to tend to.
À 24 ans, on la présente comme la nouvelle diva de la pop anglaise. Elle trace son sillon depuis maintenant 5 ans. Ça s'appelait Addicted et c'était le dernier titre de la jeune Georgia Smith.
Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et nous recevons maintenant Yann Philippin, bonjour.
Bonjour.
Pour Mediapart, vous avez publié cette semaine une série d'articles consacrés à ce que vous appelez les Rafale Papers. Vous y affirmez que la justice française a fermé les yeux sur une affaire potentielle de corruption qui concerne la vente d'avions Rafale à l'Inde, alors qu'il existait, dites-vous, des éléments qui auraient au moins mérité des vérifications. Alors ces Rafale, ils ont officiellement été commandés en septembre 2016. À l'époque, c'est un grand soulagement pour la France parce qu'on l'attend depuis longtemps, ce contrat.
Oui, ça faisait 15 ans que la France et ses industriels, Dassault en tête évidemment, se battaient pour essayer de remporter ce contrat qui était présenté par l'époque comme le contrat du siècle.
Oui, 8 milliards d'euros. Et là où il y a un problème, c'est que vous expliquez que Dassault a payé un intermédiaire qui s'appelle Sushen Gupta, 1 million d'euros. Sauf que ce million d'euros, théoriquement, a servi à acheter des maquettes, 50 maquettes, mais ces maquettes, vous sous-entendez qu'en fait, elles n'existeraient pas ?
Alors ça, c'est très intéressant parce que l'entreprise qui a fabriqué ces maquettes, qui est l'une des entreprises donc contrôlées par cet intermédiaire en armement, a dit et a montré des documents que selon lesquels elles avaient été fabriquées et livrées, donc pour 1 million d'euros, et ce au début janvier 2018. Or, quand l'agence anticorruption française tombe dessus en octobre 2018, donc 6 mois plus tard, Dassault, plutôt que de dire « Ah ben, tout va bien, on a commandé des maquettes, on les a payées, elles sont livrées », il se montre ultra embarrassé. Ils ne produisent aucun document. Au contraire, ils se plaignent du fait que l'agence anticorruption serait quand même un petit peu trop pointilleuse dans son contrôle. Et donc, si les maquettes ont bien été fabriquées, c'est très étrange cette attitude. Et ce qu'on peut deviner, c'est qu'en fait, ils ne voulaient absolument pas que les enquêteurs découvrent que derrière cette boîte qui a fabriqué les maquettes, il y avait cet intermédiaire Sushen Gupta qui s'est livré à des manœuvres très suspectes en coulisses.
Alors, Sushen Gupta, justement, parlons-en. C'est un personnage assez particulier qui lui-même a été mis en examen dans le pays dans lequel il travaille, c'est-à-dire l'Inde, même s'il a la nationalité américaine. Il a été mis en examen dans une affaire de pot de vin qui concerne un autre contrat sur des hélicoptères.
Oui, c'est assez simple. Il est soupçonné d'avoir touché des dizaines de millions d'euros de commissions de l'industriel qui fabriquait ces hélicos et de les avoir redistribués comme pot de vin à des officiels indiens. Et ce qui est très intéressant, c'est que les enquêteurs de l'agence anti-blanchiment indienne ont découvert que la méthode avec Dassault était exactement la même que dans cette autre affaire de vente d'armes pour laquelle il est mis en examen. C'est-à-dire qu'il y avait des contrats informatiques qui étaient surfacturés avec une entreprise indienne complice. Et en fait, cette entreprise indienne, elle reversait les commissions à l'intermédiaire, le tout via une myriade de sociétés offshore à Singapour ou à l'île Maurice.
Oui, parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que vous n'avez pas mis la main que sur ce fameux million d'euros litigieux autour de la pseudo-fourniture de maquettes, hein, de Rafale, mais vous affirmez que vous avez des documents qui montrent que Dassault et Thales, d'ailleurs, auraient versé à Sushen Gupta des millions d'euros de commissions occultes pendant des années.
Oui, ça a duré pendant 15 ans, et selon les documents qu'on a, le montant des commissions, ce serait quelque part entre 4 et 20 millions d'euros. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que beaucoup d'argent a été versé.
Et cet argent transite par des paradis fiscaux. Vous citez Dubaï, l'île Maurice, parfois d'ailleurs dans des sociétés qui n'ont ni bureau, ni salariés, qui sont des coquilles vides.
À de pures sociétés boîte aux lettres, il y a quand même un exemple assez drôle, qui est la société à Singapour, qui était présentée officiellement comme l'intégrateur système de Dassault en Asie. Donc vous voyez, on imagine plein d'informaticiens voilà, dans une salle. En fait, c'était une pure société écran, et le patron, c'était un prête-nom qui est aujourd'hui en fuite en Afrique du Sud.
Alors vous expliquez que vous vous basez sur des documents pour affirmer ce que vous affirmez là. Ils sont de quelle nature, ces documents ?
Alors il y a tout un tas de documents qui sont des mails, des fichiers informatiques, aussi des témoignages, hein, des témoins qui ont parlé aux enquêteurs indiens, des notes manuscrites. Tous ces documents qu'on dévoile, ils viennent d'un dossier judiciaire. Hein, c'est pas nous qui les avons mis à jour, ce sont des enquêteurs officiels indiens. Et alors même que ces enquêteurs indiens ont ces documents entre les mains depuis au moins 2 ans, il n'y a eu aucune trace visible qu'une enquête ait été ouverte en Inde.
En France non plus, on en parlera après. Mais dans ces mails, il y a des choses assez intéressantes. Par exemple, vous faites état, vous publiez un mail dans lequel on voit, on lit Gupta, Sushen Gupta, assez mécontent, expliquant à Dassault et à Thalès, en gros, que certes, on lui a versé de l'argent, mais comme lui l'a reversé à des politiques, c'est ce qu'on comprend en lisant, il demande des compensations.
Cette note, c'est manifestement un argumentaire destiné à être servi à Dassault pendant une réunion à Paris. Et là, le contenu est plus qu'explicite, vu que Sushen Gupta dit « des gens en fonction demandent de l'argent, si on ne paye pas ces gens-là, ils vont nous mettre en prison. Maintenant, il faut continuer, c'est trop tard, on ne peut plus s'arrêter. » Ou encore, « le cash n'est pas connecté, il vient d'ailleurs, il n'y a pas de problème. »
Et le cash, c'est
ben, le cash, justement, c'est intéressant parce que dans leur dossier d'enquête, les enquêteurs indiens ont trouvé que dans toutes ces sociétés offshore qui ont reçu des millions, notamment de Dassault et de Thalès, il y avait énormément de retraits de cash, un peu dans toutes ces tirelires offshore. Et il y a notamment un témoignage d'un ancien salarié de cet intermédiaire qui dit que l'intermédiaire lui a donné des enveloppes de billets pour les remettre à des gens dont, je cite, il a oublié le nom.
Alors il y a un autre point que vous soulevez, c'est que le ministère de la Défense indien voulait que soit inscrit dans le contrat ce qu'on appelle une clause anticorruption. C'est-à-dire que si a posteriori on découvre qu'il y a eu des pots de vin, le contrat devient caduque. Et vous affirmez que l'équipe française a obtenu le retrait de cette clause anticorruption.
Oui, et non seulement ces clauses auraient permis de casser le contrat, mais aussi de demander aux industriels des très très grosses indemnisations. Voilà. Et au vu de tout ce qu'on vient de dire juste avant, on comprend pourquoi les Français étaient aussi motivés pour retirer ces clauses. Et en fait, on s'est procuré ce qu'on appelle des drafts, hein, c'est-à-dire des versions de travail,
des brouillons,
voilà, du contrat, parce qu'évidemment, il évolue au fil de la négociation. Et on voit très bien que les industriels français, dont Dassault et MBDA, donc qui fabriquent les missiles, l'armement du Rafale, ils suppriment la clause, ils écrivent non applicable. Et on voit le document revenir d'Inde où les négociateurs indiens disent non, nous on la veut, cette clause anticorruption, ils la remettent. Ensuite, Dassault l'enlève une nouvelle fois. Et il aura fallu attendre le mois de septembre, donc juste avant 2016, juste avant la signature du contrat, pour que les Indiens craquent, en fait, et finalement acceptent de retirer ces clauses.
Ce qui fait qu'en dépit des informations que vous publiez aujourd'hui, le contrat restera valide.
Oui, tout à fait. Et il y a quand même un point très fort qui est que c'est là où le dossier devient très politique. Pourquoi ? Parce que c'était un contrat d'État à État. Donc toute cette négociation, elle s'est faite sous la responsabilité en France du ministre de la Défense, qui était à l'époque Jean-Yves Le Drian, qui était ministre de la Défense de François Hollande et qui est devenu par la suite et toujours aujourd'hui le ministre des Affaires étrangères d'Emmanuel Macron. Et donc c'est lui qui pilotait l'équipe des négociateurs. Il y avait 8 fonctionnaires du ministère sur 11 dans cette équipe. Et il paraît quand même curieux que le ministre qui avait autorité sur la négociation n'ait pas été informé de ces clauses. On lui a posé la question. Malheureusement, il nous a fait une réponse très vague. Tout ce qu'il nous a dit, c'est « je ne valide pas vos informations ».
Et Dassault a répondu par un communiqué, il y a 2 jours d'ailleurs, dans lequel il dit en gros « l'agence anticorruption a regardé et elle n'a trouvé aucune infraction ».
C'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que
l'agence. Vrai
oui, c'est vrai. Non, ce qui est vrai, c'est que l'agence anticorruption a regardé, a trouvé et a étouffé le dossier. C'est-à-dire que ne l'a pas signalé à la justice. Mais en effet, Dassault peut factuellement se targuer du fait que officiellement, l'agence française anticorruption n'a trouvé aucune infraction. En effet.
Bien. Chacun de se faire son idée. Et si vous voulez en savoir plus, donc je renvoie à votre enquête qui s'appelle donc les Rafale Papers et qui est consultable sur le site de Mediapart, site qui fonctionne, je le précise, par abonnement. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission a été préparée par Martin Broyer, réalisée par Christophe Imbert. Jean-Baptiste Guibert a choisi la musique. Et à la technique, il y avait Tristan Gratalon. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à samedi prochain.